Intérieur de la cathédrale. La cathédrale reçoit ses visiteurs avec un intérieur roman présidé par le portail de la gloire, conçu comme atrium ou narthex de la cathédrale. Il fut sculpté par Maître Matteo entre 1168 et 1188, en 20 ans seulement. Elle est considérée comme l'œuvre culminante de la sculpture romane. Le portail comprend trois arcs qui coïncident avec la division de la nef majeure. Dans chacun d'entre eux est racontée l'histoire du salut éternel. Ce sont plus de 200 figures de granit qui composent ce programme iconographique très étudié. Dans l'arc de gauche, c'est l'histoire du monde juif avant la venue de Jésus-Christ qui y est racontée. C'est l'arc dédié à l'Ancien Testament. Dans l'arc de droite, dédié au Nouveau Testament, c'est le jugement final qui y est montré. L'arc central compose une vision décrite par Jean l'Évangéliste dans son Apocalypse. C'est Jésus ressuscité, montrant ses plaies et entouré par les évangélistes représentés avec leur animal symbolique. En haut, à gauche, Jean avec l'aigle. En dessous, Luc avec le taureau. À droite, en haut, Matthieu, qui nous montre seulement une caisse de percepteurs d'impôts. Et en dessous, Marc et le lion. Des deux côtés de Marc et de Luc, sur la ligne inférieure, un cortège d'anges porte les instruments de la Passion. Sur l'archivolte, formant un demi-cercle, les 24 anciens de l'Apocalypse accordent leurs instruments pour entonner le chant de la gloire, car c'est l'arc de la Jérusalem céleste. Des arcs latéraux, les âmes des justes, sous la forme d'enfants nus, sont portées à la gloire par des anges. Centrons notre attention sur les colonnes qui servent aujourd'hui d'appui aux arcs latéraux. Nous y voyons les quatre prophètes à gauche, Moïse, Isaïe, Daniel et Jérémie, et les quatre apôtres à droite, Pierre, Paul, Jacques et Jean. La figure de Daniel, située sur la colonne de l'arc de gauche, possède un sourire qui a fait son histoire. Quant à son naturel et expressivité, inhabituel dans le style roman, on le considère précurseur de nouveaux tons artistiques. C'était les premiers pas du gothique à Compostelle, mais le savoir populaire a donné une explication à la gaieté du prophète. Le jeune homme contemple la beauté de la reine Esther, la rougissante figure féminine qu'il a en face, sur le mur d'entrée. Le patron de la cathédrale, l'apôtre Jacques, réapparaît sur la colonne centrale en marbre. Celle-ci montre les profondes traces laissées par les mains pèlerines, car il est coutume de frôler la colonne tout en dirigeant sa prière au maître-autel. Mais, seulement au cours de ce dernier siècle, ce frôlement a détérioré beaucoup plus la colonne que tout au long des 800 années postérieures à sa construction. Il est donc conseillé de ne pas suivre cette coutume. Derrière la colonne, nous trouvons Maître Matteo agenouillé, comme nu comme le saint des Croquès, car, selon la tradition populaire, il a le pouvoir de transmettre son talent à ceux qui lui donnent trois croquets ou coups de tête, formule très suivie par les étudiants de Saint-Jacques et par les visiteurs désireux d'inspiration. En avançant par la nef centrale, nous pouvons comprendre le schéma de la cathédrale, parfaitement conservé dans son style roman original. Il s'agit du plan classique en croix latine des églises de pèlerinage, avec trois nefs dans le sens longitudinal et trois autres dans le transept. La nef centrale mesure plus ou moins 97 mètres et est couronnée par un triforium qui entoure tout le temple et élève les nefs jusqu'à 20 mètres de hauteur. La galerie, située en haut, constituait un élément utile au Moyen-Âge, quand de nombreux pèlerins se voyaient obligés de dormir dans la cathédrale en attendant le premier office religieux. Arrivés au maître-autel, nous apercevons immédiatement la fastueuse intervention de l'architecture baroque dans la cathédrale romane. Le baldaquin déconcertant des colonnes torses, qui protègent l'autel d'argent et la niche de l'apôtre, est couronné par l'effigie équestre de l'apôtre. C'est une pièce du XVIIe siècle, quand le conseil municipal décida de doter d'un aspect plus spectaculaire l'ensemble de la cathédrale. Sur ce point, les attentes des fidèles se voient récompensées. Ici a lieu la messe du pèlerin, tous les jours à midi, et les rituels individuels de la collade à l'apôtre et la visite des reliques. En effet, en montant les escaliers à droite de la carole, dans la niche, la figure romane de Jacques, dit le majeur, originale du XIIIe siècle, reçoit les motifs accolades des pèlerins. Après, l'on descend par les escaliers de gauche pour visiter les reliques de l'apôtre dans le petit mausolée qui a été l'épicentre spirituel de la ville. Cette crypte abrite sa dépouille mortelle du 1er siècle, découverte selon la tradition au 9e siècle et qui repose néanmoins dans une urne du 19e siècle. L'explication réside dans une menace du pirate Francis Drake qui, lors d'une de ses incursions maritimes à la Corogne en 1589, eut l'idée de transporter les reliques vénérées jusqu'en Angleterre. Les chanoines s'empressèrent alors de les cacher et elles ne réapparurent que 300 ans plus tard, à la fin du 19e siècle, quand une bulle papale reconnut à nouveau son authenticité. Des deux côtés du maître-autel s'étendent les 65 mètres du transept, qui est parcouru lors des fêtes solennelles par le Botafumeiro. Cet énorme encensoir commença par être probablement au XIIIe siècle instrument de purification de la cathédrale de Compostelle, mais sa véritable fonction était d'essayer de cacher, moyennant l'arôme de l'encens, l'odeur corporelle des pèlerins. Le Botafumeiro, d'un mètre et demi de haut et pesant 53 kg, est actionné par 8 tiraboleiros qui le font voler du nord au sud à travers le transept. Il suffit d'une minute et demie pour qu'il atteigne une vitesse de 68 km/h et forme un angle de 82 degrés sur la verticale, ce qui le rapproche à presque un mètre de la voûte. On peut voir la corde et le système de poulies conçu au XVIe siècle, toujours suspendu de la coupole octogonale. Un parcours plus calme à travers les bras du transept et de la carole nous permettra d'admirer architecture et pièces artistiques de différentes époques, spécialement à l'intérieur des chapelles dans lesquelles les pèlerins de différentes nationalités trouvaient les saints auxquels ils étaient dévoués. Nous vous suggérons de ne pas omettre au cours de votre promenade la chapelle de la Corticella, fondée au IXe siècle par des bénédictins comme oratoire hors de la cathédrale. Elle termina par y être reliée à travers un couloir échelonné dans le bras nord, devenant ainsi une église paroissiale à l'intérieur de la propre cathédrale. Dédiée à la Vierge, c'est une petite cour, cortée, de là son nom Corticella. Son entrée nous surprendra avec une merveilleuse représentation de l'adoration des rois mages. Une fois notre visite conclue, nous continuerons en sortant par la porte nord, qui est l'entrée par où accédaient les pèlerins nouveaux venus du chemin de Saint-Jacques.